Classe 7-8H, on est les meilleurs.
Bonjour, nous sommes la classe 7-8H de Julien, Gobet en direct de Husternance devant Romont. C'est un village dans le district de la Glane, à l'intérieur du canton de Fribourg.
Nous vous avons préparé pour cette heure de radio 4 interviews.
Pour commencer en musique, nous vous laissons écouter « Ça va, ça vient » de Vita et Slimane, puis l'équipe des sports prendra notre place.
Bonne écoute!
De la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien.
Kevin,
Lola,
Pierre,
Augustine,
Interview Sport.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau de Husternance de Vauramont. Nous sommes l'équipe Sport.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport en pleine ascension dans notre canton, la grimpe. Pour parler de ce sujet, nous avons préparé l'interview d'Anouk. C'est une jeune prof d'escalade de 20 ans. Elle travaille dans les trois salles bulloises, la Niaque, le Débloc et l'Entrepôt.
Nous lui avons posé des questions sur sa passion, son métier et les concours. Nous vous passons l'interview et on vous retrouve après.
Pourquoi avez-vous commencé l'escalade ?
J'ai commencé l'escalade il y a plus ou moins 5 ans parce qu'il y a mes potes qui m'ont toujours dit « Ouais, viens grimper avec moi et tout ». Puis au début, moi je me disais « Ouais, non, c'est un sport que personne fait, qui n'est pas super connu ». Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, moi, je vais quand même essayer une fois juste pour voir ce que ça donne ». Et puis j'ai essayé et puis j'ai jamais arrêté depuis. Voilà.
Qu'est-ce qui vous passionne dans l'escalade ?
Il y a beaucoup d'éléments parce que l'escalade, c'est un sport super complexe. Il y a le fait d'avoir confiance en son partenaire, donc ça entraîne aussi la relation entre les personnes. Puis ensuite, il y a aussi le fait que l'escalade, c'est un sport qui entraîne tout le corps, qui fait pas seulement une partie du corps. Il y a les jambes qui sont travaillées, les bras, le dos. Et ça fait aussi des muscles qui sont vraiment internes, qu'on voit pas vraiment à l'extérieur, qu'on travaille pas sinon. Et puis après, dans l'escalade, il y a aussi tout ce qui est autour avec les amitiés que ça crée et puis aussi tout ce qu'on peut aussi en faire à l'extérieur, donc aller en montagne, grimper en montagne et ainsi de suite.
Vous êtes-vous déjà blessé en faisant ce sport ?
À part des grosses égratignures parce que je suis tombée et puis que je me suis ouvert le genou, non. Mais j'espère que ça ne viendra pas parce que c'est vraiment pas cool.
Pourquoi êtes-vous devenue prof d'escalade ?
C'est venu tout d'un coup. On m'a proposé un poste à Débloc. Il manquait du monde. Et puis je me suis dit, ouais, au final, pourquoi pas essayer ? Et j'avais aussi envie de montrer aux plus jeunes à quel point ce sport il pouvait être cool. Et puis j'avais envie de donner envie aux jeunes aussi de faire ce sport et puis qui trouvent aussi la passion dedans que moi j'ai.
À quoi doit-on faire attention lorsqu'on enseigne l'escalade ?
L'escalade, c'est un sport compliqué à enseigner parce que c'est un sport à risque. Et du coup, on doit faire attention à tout d'abord la sécurité. Parce que rien qu'au bloc aussi, il n'y a pas de corde, donc il n'y a pas le maniement de la corde, l'assurage et tout. Mais il y a quand même le fait que si quelqu'un grimpe et puis sur le tapis en dessous, il y a quelqu'un, et puis que la personne qui grimpe, elle tombe sur la personne en dessous, ben, même là, il y a des risques. Du coup, déjà, il faut faire attention à cette sécurité-là. Et après, il faut faire attention à ce que les élèves ne se blessent pas et aussi qu'ils aient du plaisir parce que l'escalade, c'est un sport où c'est compliqué de faire des jeux parce que ben, on est sur le mur, c'est pas toujours facile de faire un jeu directement dans la grimpe. Mais donc, il y a des éléments super complexes et puis il faut trouver des jeux où on arrive à combiner et la grimpe et le jeu.
Est-ce qu'un de vos élèves s'est déjà blessé pendant vos cours ?
Il y a eu des petits trucs, comme il est tombé et puis il s'est pris le genou dans les dents, donc il s'est un petit peu ouvert la lèvre, mais sinon, il n'y a rien eu de plus gros que ça, heureusement. Et puis j'espère pas que ça va arriver parce que...
Est-ce qu'il y a un nombre maximal d'élèves ?
Oui, absolument. Alors, au bloc, c'est un petit peu plus large parce qu'on a une meilleure vue d'ensemble, il n'y a pas le maniement de la corde à faire attention. Donc au bloc, c'est plus ou moins 9 ou 10 le maximum pour une personne. Et à la salle, c'est-à-dire là où on a les voix, avec les cordes, là, c'est plus maximum, grand maximum 6. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, ça, c'est les normes jeunesse et sport. Mais moi, je trouve ça trop. C'est-à-dire que quand il y a 6 enfants pour une personne, c'est dur à gérer. Et c'est pour ça que les cours que je donne en voix à l'Agnac Escalade, là, on est toujours 2. Et puis, cette année, j'ai un groupe avec 11 enfants et un groupe avec 14 enfants. Et ça va bien, avec 2 moniteurs.
Aimeriez-vous ouvrir votre propre salle d'escalade ?
Alors non, la mienne, j'aimerais pas l'ouvrir parce que là, je viens de suivre une ouverture de salle d'escalade, de la salle de l'entrepôt. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs à regarder, il y a tellement d'éléments différents. Et c'est tellement compliqué aussi à gérer le chantier, à gérer tout ce qu'il y a autour pour que ça devienne un lieu accueillant, que moi-même, me faire ça, j'ai pas trop envie. Mais j'aurais toujours envie d'aider une autre personne ou bien une autre association à ouvrir une salle d'escalade, mais pas la mienne.
Avez-vous déjà fait des concours ?
Oui, alors j'ai fait des concours amicaux, c'est-à-dire c'était pas avec des monstres prix, mais c'est à l'Agnac Escalade, il y a souvent, enfin une fois par année, il y a la Climb Mania. C'est un concours qui tourne dans toute la Suisse romande, dans toutes les salles d'escalade. Et celui-là, j'ai déjà participé plusieurs fois, mais j'ai pas eu des très bonnes expériences. Enfin, j'ai été en finale, mais il y a eu des éléments autour qui ont fait que c'était pas le meilleur des concours.
Aimeriez-vous monter à un niveau mondial ?
D'un côté, oui, et d'un autre, non. Parce que le niveau mondial, enfin, progresser et puis voir tout le monde de la grimpe à l'extérieur de seulement le niveau amical, ça serait chouette. Mais il y a un moment, on arrive à un niveau où on n'arrive pas à aller plus haut. Parce qu'on bloque, et puis moi, je suis un peu arrivée à mon niveau où je bloque. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup pour surpasser ce niveau. Et en ce moment, j'arrive pas. Avec le travail et tout, ça va pas, j'arrive pas à investir assez de temps. Et le niveau mondial, en fait, ce qui me retient un petit peu aussi, c'est qu'il y a trop l'esprit compétitif et puis il y a plus l'esprit amical qui est derrière, que j'aime tant dans l'escalade. Donc c'est un rêve, mais qui va rester un rêve et puis qui va pas être accompli.
D'accord. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Alors, nous revoilà sur le plateau de Wisternance de Vaux-Romans. On espère que cette interview vous aura donné envie de commencer l'escalade. Il paraît que cela muscle une grande partie du corps.
En tout cas, n'hésitez pas à venir faire un petit tour dans les 3 salles d'escalade à Bulle.
Et encore merci à Anouk d'avoir répondu à nos questions.
Bonne grimpe à tous.
Et pour vous motiver à grimper, nous allons écouter Bang Bang de Jessie G et Ariana Grande.
Good, gotta blow your mind. Inès, Alexandra, Anissa.
La culture, c'est nous.
Bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du Coin Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de Corinne Cura. Inès, qui est Corinne Cura?
C'est ma tante, elle travaille au musée de l'Ermitage.
Amélie, c'est quoi le musée de l'Ermitage?
C'est un célèbre musée suisse, il organise de grandes expositions. Le musée se trouve sur les Hauts de Lausanne.
Amélie, es-tu déjà allée le visiter?
Oui, c'était super, il est super grand.
Est-ce que c'est intéressant?
Oui, j'ai adoré la visite guidée, les tableaux, ils étaient super impressionnants.
Nous avons posé à Corinne Cura une série de questions concernant son travail, le musée et les différentes expositions du musée.
Bonne écoute et à tout à l'heure.
Quel est votre métier?
Je suis conservatrice adjointe, c'est-à-dire que je suis aussi historienne de l'art et que maintenant j'exerce la profession de conservatrice adjointe dans un musée.
En quoi cela consiste-t-il?
Alors, être conservateur adjoint à la Fondation de l'Ermitage, ça veut dire que j'organise des expositions à la Fondation. Donc, il y a toute une partie scientifique de préparer les concepts d'exposition, donc choisir les sujets de projets d'exposition, mais aussi développer ces projets d'exposition. Et puis ensuite, il y a toute une partie de suivi administratif pour lequel on doit, par exemple, gérer tous les prêts d'exposition, faire toute la coordination du projet, donc faire venir les œuvres, écrire tous les textes d'exposition, mais aussi préparer les catalogues d'exposition. Donc c'est un travail assez complexe parce que ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc je ne sais pas jusqu'à quel détail vous voulez avoir des informations.
Dans quelle école avez-vous appris votre métier?
Alors moi, j'ai fait une formation d'historienne de l'art à l'Université de Lausanne. Et ensuite, le métier vraiment en soi, je l'ai appris en faisant un stage au musée de l'Élysée à Lausanne. Donc un stage pratique, parce qu'il n'y a pas une formation pratique qu'on peut apprendre dans une école pour devenir conservateur. On peut faire des formations complémentaires, ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une école qui va ensuite donner un papier de conservateur adjoint.
Combien d'employés y a-t-il dans le musée de la Fondation de l'Ermitage?
Alors on est, je dirais, environ 15 personnes, mais sachant que quasiment aucun employé n'est engagé à 100%. Donc il y a seulement, je pense, 2 personnes maintenant qui sont engagées à 100%. Et moi, personnellement, je travaille à 80%.
Nous avons vu sur le site internet que vous vendez des livres. Pourquoi vendez-vous des livres?
Alors, à la Fondation, il y a une librairie dans laquelle on a effectivement un assortiment de livres, mais aussi d'autres objets. Ça peut être... on ne voit pas que des livres, mais l'idée, c'est qu'en fait, le visiteur vienne voir l'exposition et en ressortant, il puisse acheter soit le catalogue de l'exposition, dans lequel donc est présentée toute l'exposition et sont aussi illustrés l'ensemble de la sélection des œuvres. Et puis, le but, c'est de faire découvrir, donner envie aux gens de repartir avec des livres. Et il faut bien le dire, c'est aussi un moyen de se faire de l'argent, de gagner des sous. Une librairie, ça amène quand même pas mal d'argent au musée.
À qui empruntez-vous des tableaux pour l'exposition que vous faites?
Alors, les œuvres, elles viennent soit de musées, donc des collections publiques ou de musées privés, ou alors de collectionneurs privés. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment en Suisse, qui ont des grosses collections d'œuvres d'art, qu'ils ont soit stockées dans des dépôts privés en Suisse ou à l'étranger, ou alors qu'ils ont en permanence dans leur maison. Donc nous, on doit donc retrouver les tableaux qui nous intéressent, et parfois c'est assez compliqué, donc on est un peu comme un détective. Il faut retrouver les œuvres, donc trouver une œuvre qui se trouve dans les collections d'un musée, c'est pas très compliqué. Par contre, retrouver des œuvres qui sont chez des collectionneurs privés, c'est pas simple, donc on doit vraiment demander à tous les gens de notre réseau de nous aider à retrouver une œuvre. Donc parfois ça prend beaucoup de temps, et après on va chez les collectionneurs privés pour les convaincre de nous prêter les tableaux. Donc c'est un travail assez compliqué, assez long en fait, mais c'est vraiment très excitant, parce que quand on trouve le tableau et qu'en plus après on peut aller le voir chez les gens, c'est vrai que c'est une partie vraiment géniale du métier.
Combien d'expositions avez-vous fait?
Alors moi, je pense que j'en ai fait... là, il y a 10 ans que je fais ce métier, donc j'en ai fait plus... peut-être 15. J'ai jamais compté, en fait, mais j'en ai fait déjà pas mal, ouais.
Quelle exposition vous a le plus marqué ?
Alors, pour moi, c'est vraiment la toute première que j'ai pu organiser quand j'étais justement en stage au Musée de l'Élysée. C'était une exposition qui présentait les travaux de 8 ans de photographes contemporains. Et c'était que des jeunes qui venaient de terminer leur formation, qui travaillaient quasiment sur 3 continents. Donc, ils venaient vraiment du monde entier. Et ça, c'était vraiment génial parce que d'un point de vue vraiment du contact que j'ai pu avoir avec les gens, humainement, en fait, c'était une expérience formidable. En fait, il y a des gens qui sont encore restés vraiment de très bons amis à moi. Donc, au-delà du métier, je trouve que c'est aussi toutes les relations qu'on tisse avec les gens qui sont vraiment passionnantes.
Quelle exposition a le mieux marché ?
Je pense que l'exposition qui a le mieux marché, c'était un projet sur le peintre Paul Signac, qui est un peintre pointilliste. Et ça, c'était il y a quelques années à la Fondation. On avait eu, je pense, un peu plus de 50 000 visiteurs, je crois.
Comment s'appelle l'exposition actuelle ?
Alors, en ce moment, le musée est fermé et on va réouvrir à la fin du mois de janvier, je crois le 22-23 janvier. Et ce sera une exposition sur la peinture canadienne. Donc là, on va présenter des œuvres d'environ 35 peintres qui sont vraiment pas beaucoup connus en Europe, qui ont quasiment même jamais été présentés par chez nous. Et c'est une exposition qu'on organise avec un musée canadien. Et c'est ce musée qui a en fait organisé l'exposition et qui fait tourner l'exposition en Europe. Donc l'expo, elle a déjà été montrée en Allemagne, à Munich. Et puis elle vient chez nous de janvier à mai. Et ensuite, les œuvres, elles vont être transportées jusqu'en France, à Montpellier. Et après, les œuvres, elles retournent au Canada. Donc c'est un projet assez important.
Quelle sorte de tableau exposez-vous ?
Alors, à la Fondation de l'Ermitage, on présente surtout des œuvres du 19e, 20e siècle. Pas mal de peintures impressionnistes, mais en fait, ça dépend vraiment beaucoup des projets qu'on organise. Donc, la dernière exposition qu'on a faite, c'était sur le thème de l'ombre. On avait des œuvres qui présentaient le sujet de la Renaissance jusqu'à l'art contemporain. Donc, il y avait aussi bien de la photographie que de l'installation, de la vidéo, des tableaux. Donc, c'était finalement l'occasion de présenter tout type de médium artistique.
Si vous deviez sélectionner un tableau pour le faire découvrir au public, lequel choisirez-vous ?
Alors ça, je trouve que c'est une question vraiment très compliquée pour moi parce que mon travail, c'est vraiment ma passion. J'adore la peinture. Je ne crois pas que j'arriverai en fait à citer une œuvre que j'aimerais présenter en particulier. Mais c'est vrai qu'on a tout le temps des coups de cœur dans les expositions, des tableaux qui nous frappent plus que d'autres. Puis comme je travaille dans le musée, des fois, je vais souvent les voir, les revoir. C'est vraiment c'est trop difficile. Je ne sais pas, il y a trop d'œuvres que j'aime. Donc moi, je suis vraiment toujours très contente de pouvoir faire partager ma passion avec les gens.
Ok. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Mais de rien, merci à vous trois.
Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Nous revoilà sur le plateau de Radio Box de Visternons.
J'espère que vous avez aimé cette interview et que cela vous a donné envie d'en savoir plus sur ce musée. Vous pouvez aller voir sur le site internet pour voir quand le musée sera à nouveau ouvert.
Merci à tous pour nous avoir écoutés. Merci à Corinne Cura d'avoir participé à notre interview.
Merci à toute l'équipe Culture pour ce reportage.
À bientôt. Nous vous quittons sur une très belle chanson de l'artiste pop du moment. Je veux parler d'Angèle. Angèle avec Oui, Non.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. Oh. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Oh. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux. Ou bien. était lié. J'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer.
L'actu
au café bourgeois.
Bonjour, nous sommes sur le plateau avec l'équipe du sport régional avec Max, Lucas, Sven et William.
Pour l'émission du jour, nous avons interviewé Alex, entraîneur des Griffons de Romont.
Sven, qui sont les Griffons de Romont ?
C'est le regroupement junior de hockey sur glace, de Bulle et de Romont.
Avant d'être entraîneur, Alex est allé tenter sa chance aux États-Unis. De retour en Suisse, il devient entraîneur. À ce jour, il entraîne les U15 Top de Romont, des hockeyeurs de 13 à 14 ans.
Nous avons commencé par lui demander pourquoi il entraînait des équipes de juniors. Voici sa réponse.
Alors c'est tout simple, la suite de ma carrière de joueur, j'ai voulu changer complètement un peu de vie, mais rester quand même dans le monde du sport et des jeunes, qui m'a toujours un peu attiré pour pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Et c'est quand même un monde dans le pays du hockey, donc c'est de la raison.
Depuis combien de temps entraînez-vous ces équipes ?
Ça fait 3 ans que j'entraîne.
Combien d'entraînements faites-vous par semaine ?
Alors j'entraîne tous les jours, minimum 2 entraînements, souvent 3 entraînements par soir.
Qu'est-ce qui est le plus dur avec le fait d'entraîner des enfants ?
Je pense que le plus dur, c'est la gestion un petit peu avec les parents. Avec les jeunes, en général, ça se passe assez bien. Après, c'est sûr qu'on n'entraîne pas de la même manière des jeunes de 6 ans ou des jeunes de 18 ans. Ils voient un peu différents âges tous les soirs. Ça me permet un petit peu de voir les caractères, les comportements de chacun. Mais ouais, je dirais la gestion avec les parents.
Pour quelle équipe jouez-vous à l'étranger ?
Alors j'ai fait 2 ans aux États-Unis. Première saison, j'ai joué avec les Valencia Flyers en Western State Hockey League. C'est une équipe junior aux États-Unis, près de Los Angeles. Et la deuxième année, je suis parti dans le Michigan à Portland Prowlers. C'est une équipe pro en Federal Hockey League.
Quelles sont les principales différences entre le hockey suisse et le hockey canadien ?
Je pense que en Suisse, on joue un peu plus rapide, un peu plus technique aussi. En Amérique du Nord, c'est un peu plus physique, avec les patinoires plus petites. On dirait que c'est un peu plus lent parce que les gens ils ont moins besoin de patiner. Mais on a moins de temps sur la glace en fait pour voir l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait et tout.
Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?
Énormément de bons souvenirs. Au début, ça n'a pas été facile de partir à 19 ans et puis d'être loin de sa famille, loin de ses copains, pour arriver dans un autre pays où tu parles même pas la langue. Mais une fois le premier mois passé et puis tu commences à parler, après je n'ai gardé que des bons souvenirs.
Pourquoi êtes-vous revenu en Suisse ?
À la suite de ma première saison chez les pros, je suis revenu m'entraîner durant l'été en Suisse comme je faisais d'habitude. Et je peux aller au Ticino Rocket. Après, que ce soit là, jouer pro en Suisse en Ligue B ou bien aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Donc j'ai voulu tenter l'expérience un peu en Suisse.
Avez-vous un autre travail ? Si oui, lequel ?
Alors, depuis cette année, je suis entraîneur professionnel. J'ai fait une formation de paysagiste quand j'étais juste après l'école. Ça me permet l'été de toujours un petit peu aller sur les chantiers, dans les entreprises des copains. Je vais donner un coup de main de temps en temps, comme ça je garde un petit peu un pied dans le monde du travail.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau.
Une petite question, Sven. Est-ce que votre entraîneur est sévère ?
Oui, parfois, quand on fait des bêtises, mais en général, il est sympa.
Si vous voulez voir un match de hockey, rendez-vous à la patinoire de Romans pour voir un match des Griffons. Ils jouent souvent le samedi ou le dimanche. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'équipe.
Merci à Alex d'avoir répondu à nos questions.
Nous vous laissons avec Blablabla de Armin van Buuren.
On enquête sur tout.
Salut Chloé, salut Samuel.
Salut Maëlle.
Nous sommes l'équipe des enquêteurs de la radio. Nous fuinons, nous observons avec discrétion et nous dévoilons les plus grands secrets du monde. Aucun indice ne nous échappe.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
On va continuer notre enquête sur Jean-Baptiste Meriswille.
Ah oui, c'est quand même louche qu'il s'occupe de toute la police suisse et qu'il doit aller à des conférences internationales. On n'en savait rien de tout cela.
C'est vrai que c'est louche, mais ils travaillent à la Confédération. Ils savent garder des secrets là-bas.
Nous avons eu la chance de le contacter et de lui poser des questions sur ce métier très spécial.
Alors passons à l'enquête et écoutons ce qu'il a à nous dire.
Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer votre métier ?
Alors en quelques mots, je travaille auprès de l'Office fédéral de la police. Et je suis en charge de tous les systèmes d'information de police. Donc j'ai l'entière responsabilité pour toute la Suisse, pour maintenir ces systèmes, pour les développer. Et ça correspond à des systèmes qu'on appelle de recherche, quand on recherche des personnes disparues ou des personnes qui ont commis des délits. Et aussi pour tout ce qui est les enquêtes, tout ce qui est aussi un peu pour la plus partie service secret, aussi les informations qu'on va mettre à disposition. Ça, c'est un de mes rôles. Et un deuxième rôle, je suis ce qu'on appelle le chef du système d'information Schengen, qui me met en relation directe avec l'Union européenne. Donc, je représente aussi la Suisse au sein de l'Union européenne pour tous ces échanges. Voilà, en gros, en quelques mots.
D'accord. Quelles formations sont nécessaires pour travailler au département de la justice et police ?
Alors, les métiers sont très, très, très variés. Vu qu'on a un peu de tout, on a des gens qui sont employés de commerce parce qu'ils traitent simplement des informations, des choses comme ça, qui écrivent des lettres, on doit écrire aux citoyens, on doit répondre aux lettres des citoyens. On a aussi par exemple tout ce qui est les passeports qui sont chez nous. Donc ça veut dire qu'on aura des gens qui sont spécialisés pour dessiner, pour faire des caractéristiques très spéciales, par exemple dans les passeports, pour ne pas pouvoir les falsifier. On a des gens qui viennent du domaine de la banque, vu qu'on traite aussi le blanchiment d'argent. Donc il nous faut des gens qui sont spécialisés là-dedans. On a des gens qui travaillent dans l'informatique, naturellement dans la police. On a aussi des gens qui ont des études universitaires, beaucoup du forensique, comme on dit. On traite aussi tout ce qui est la biométrie, donc les reconnaissances faciales, de reconnaître les empreintes digitales, l'ADN, donc aussi de la médecine, des juristes, naturellement, des avocats. Donc il y a un peu tous les corps de métier qui sont représentés, si ce n'est peut-être des électriciens, des installateurs sanitaires ou des choses comme ça. Mais plus dans le domaine administratif, il y a énormément de gens, de métiers qui sont représentés.
À quel âge êtes-vous entré dans ce département ?
Alors je suis rentré à l'âge de 35 ans.
Avec toutes ces responsabilités, nous nous demandions si vous n'étiez pas un agent secret. Avons-nous vu juste ?
Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que si je serais un agent secret, ou ce qu'on appelle chez nous les enquêteurs qui travaillent en sous-marin, nous ne donnons jamais cette information. Donc, si je le serais, je ne donnerais pas l'information. Mais en l'occurrence, je ne le suis pas. Parce que ce n'est pas, disons, mon domaine d'activité. Comme j'ai dit avant, je travaille surtout pour les systèmes d'information, donc de garantir que tout ceci soit 24 heures sur 24 à disposition pour tous les policiers, non pas seulement en Suisse, mais aussi en international, vu que je traite aussi tout ce qui est Interpol, ça vous dit certainement quelque chose, et aussi Europol, c'est aussi des métiers qui sont connus, des choses qu'on connaît, et naturellement tout ce qui est en Suisse avec tous les 26 cantons. Donc non, je ne suis pas un agent secret. J'ai certainement certains secrets, mais pas agent en soi, non.
Avez-vous déjà parlé au président actuel ?
Alors en Suisse, il n'y a pas vraiment de président. On a 7 conseillers fédéraux, et moi j'ai affaire avec une des conseillères fédérales, donc département justice et police, madame Karine Keller-Souter, pas toujours affaire. Facile à dire. Chez nous, on l'appelle KKS, ce qui est plus facile pour les abréviations. Donc oui, j'ai déjà eu affaire avec elle. On a régulièrement affaire avec elle parce que quand on prépare quelque chose, un dossier ou comme ça, c'est toujours nous qui lui donnons toutes les informations nécessaires. On fait ce qu'on appelle des notices qu'on lui met à disposition avec l'état actuel de la situation, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce que l'on attend d'elle, ainsi de suite. Si après elle veut bien le faire, c'est une autre discussion. Mais on prépare tous ces dossiers, et ça, c'est un travail quotidien. Donc on a toujours des relations avec nos ministres.
D'accord. Êtes-vous au courant de certains secrets ?
Oui, bien sûr, je suis au courant de certains secrets, comme toi tu es au courant de certains secrets aussi, mais que sans secret, on ne peut pas toujours les dire. Mais oui, effectivement, il y a des secrets dans notre métier, surtout qu'on ne veut pas forcément ébruiter. Hein. On traite dans notre domaine, par exemple, tout ce qui est le terrorisme. Ça, vous connaissez certainement, vous avez entendu, vous avez vu dans les journaux. C'est quelque chose qui nous préoccupe quotidiennement. Donc, il y a des informations que l'on a, qu'on ne donne pas plus loin, pour des raisons de sécurité, non pas seulement dans le pays, mais aussi des témoins que l'on a interrogés, tout ça, pour garder leur sécurité. Donc on ne donne pas ces informations, c'est des secrets que l'on a. On a d'autres secrets qui sont dans des banques de données ou des choses comme ça, des gens qu'on surveille. On surveille pas toujours ouvertement, on se cache un peu pour surveiller les gens. Donc ce qu'on voit un peu dans les films, hein, on se met en civil, comme je suis habillé maintenant, et puis on va 24 heures sur 24 surveiller des personnes pour être sûr qu'ils ne vont pas commettre de délit, parce qu'on pense qu'ils vont commettre un délit. Ça peut être de poser une bombe, ça peut être de tuer quelqu'un. C'est aussi des traites, par exemple, d'êtres humains, que l'on traite aussi. Ça peut être tout ce qui est lié au trafic d'armes, d'argent. Donc oui, on a beaucoup de secrets que l'on ne partage pas avec tout le monde, et même les policiers entre eux ne partagent pas toujours non plus.
Alors, nous revoilà sur le plateau, nous allons faire une pause musicale en écoutant Dance Monkeys, Don't Land High. Nous nous retrouvons après pour la suite de l'interview.
They say, oh my God, I see the way you shine. And bless them both in mine. You know you stopped me
do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm ready to be that again. They say.
Et voilà, c'était Dance Monkey de Tone and I. Maintenant, nous allons continuer l'interview de Jean-Baptiste Berisfield là où nous étions. Bonne suite.
Quelle sorte de problèmes devez-vous gérer dans votre métier ?
Alors, les problèmes sont très divers. On va dire le premier problème, c'est surtout ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire les personnes, les gens en soi. J'ai 52 collaborateurs à mon service et à peu près une vingtaine de collaborateurs externes. Et tous ces gens, il faut les gérer, il faut leur donner du travail, il faut les diriger, il faut leur donner des responsabilités, déléguer du travail, et puis faire confiance à quelqu'un d'autre. Je pense comme vous, c'est le même problème. Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est pas toujours évident. Et puis quand ça marche bien, bah, tout est beau. Et puis quand ça marche pas très bien, bah, les problèmes commencent. Et les gens ont des problèmes aussi au quotidien avec leur famille ou avec leurs enfants ou ces choses-là. Et ils prennent ça avec aussi au travail. Donc il faut gérer ça, il faut discuter avec ces gens-là. Ils sont peut-être pas contents parce qu'ils gagnent pas assez d'argent ou parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils ont travaillé trop souvent la nuit ou le week-end. Mais que chez nous, on travaille 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ça ne s'arrête jamais. Les autres problèmes qui sont fréquemment à traiter, c'est dans nos projets. Donc, c'est des ressources d'argent. Il faut avoir l'argent pour faire ces projets. Pour donner un exemple, tout ce qu'on a mis en place pour entrer dans l'espace Schengen, ça nous a coûté à peu près 380 millions de francs. Donc c'est un budget qu'il faut gérer, il faut rendre des comptes, il faut rendre des comptes aux parlementaires, aux ministres et naturellement à toute la population suisse avec des rapports où on doit dire pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'argent, pourquoi est-ce qu'on a dépensé plus, pourquoi est-ce qu'on a dépassé les délais, des choses comme ça. Donc ça c'est dans les projets qu'on a fréquemment, donc avec l'argent. Et les autres choses sont souvent on est tributaire d'autres personnes, d'autres organisations. Comme on travaille beaucoup avec l'international, ça veut dire que quelque chose vient, par exemple d'Interpol ou comme ça, que l'on doit mettre en place en Suisse. Donc il nous donne un délai, et ce délai, il faut le tenir, parce qu'il y a 192 autres pays qui ont le même délai. Donc si nous, en Suisse, on dit, ben non, on ne maintient pas le délai, on va avoir ce qu'on appelle un problème d'image, parce qu'on va se dire, en Suisse, c'est pas possible, qu'on n'ait pas l'argent, qu'on n'ait pas les ressources pour faire ça. Donc on aurait un peu de peine à accepter ça. Donc il faut gérer ça, il faut traiter, il faut trouver les solutions. Moi je dis toujours, des problèmes, on en a quotidiennement. Des solutions aux problèmes, on en a plein. Mais chaque solution amène son problème. Et chaque problème apporte des solutions. Donc ça ne s'arrête jamais. Donc on doit en permanence trouver des solutions à tous ces petits problèmes qui soient grands aussi. Des fois, ça entraîne, je dirais, des choses plus importantes ou des changements de cap. Ça veut dire d'arrêter quelque chose, de dire ben, on continue pas, on arrête tout, on met tout dans les tiroirs et puis on recommence avec autre chose. C'est aussi des décisions qu'il faut prendre qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas toujours évidentes parce qu'il y a plein de monde qui est concerné. Et les gens n'acceptent pas toujours les décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui est. Et pour moi, personnellement, après, c'est aussi tous les voyages. Vu que je représente la Suisse à l'étranger, ça veut dire que je voyage fréquemment. J'ai eu dernièrement un petit souci de santé, mais avant ça, je voyageais à peu près toutes les deux semaines à quelque part en Europe pour aller traiter, pour aller discuter avec d'autres pays, pour trouver des solutions, pour trouver des ententes ensemble, créer des arrangements, trouver des moyens personnels, par exemple, pour développer des choses ensemble, pour pas gâcher de l'argent ou bien du personnel. Donc ce genre de choses sont des problèmes qui sont fréquents et quotidiens. Donc quelques-uns.
Collaborer avec des personnes d'autres pays.
Oui, parce que comme je disais avant, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est un de mes principaux rôles, mais que je suis aussi le chef de ce système d'information Schengen, et ceci concerne que l'étranger. Donc ça veut dire qu'il faut aller auprès de l'Union européenne. Il y a des séances toutes les deux semaines qui sont soit à Bruxelles ou alors à Tallinn. C'est les deux endroits où cette agence est installée. Et on représente la Suisse. C'est très formel. Il y a une grande tablée avec tous les États membres qui sont présents. Et il y a une présidence qui est au bout, qui dirige tout ça. Et quand on veut prendre la parole, on ne peut pas simplement lever la main ou comme ça. C'est très protocolaire. On a un petit panneau qu'on doit mettre debout. Et puis ensuite, c'est la présidence qui décide quand est-ce qu'il donne la parole à qui. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer pour les questions, il faut écrire les choses pour ne pas les oublier, parce qu'entre deux, ça continue à discuter. Donc oui, on a beaucoup à faire, j'ai beaucoup à faire, et c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. J'ai la chance aussi de connaître plusieurs langues. Ma langue maternelle est l'allemand, donc j'ai appris le français par la suite à l'école, à l'âge de 12 ans. Et puis après, j'ai appris encore un peu l'italien et l'anglais, naturellement. C'est une langue qui est très importante pour traiter avec tous ces pays, pour trouver un terrain d'entente. Tout le monde ne parle pas le français, ce qui n'est pas toujours facile.
Merci beaucoup pour cette interview, Jean-Baptiste Berisville. À bientôt.
Merci à vous.
Nous sommes de retour dans les studios. Alors, notre enquête, elle en est où? Maintenant, on en sait beaucoup plus sur lui.
Moi, en tout cas, je veux faire le même travail que lui.
Bah, vas-y, tente ta chance.
Vas-y, cours, cours.
D'accord, j'y vais, à bientôt.
Ah, Samuel, toujours le même.
Il réfléchit avec ses pieds ou quoi? Il est trop jeune pour entrer dans la Confédération.
Je n'ai pas été pris. Je suis trop jeune. À Berne, ils ont dit que je devais revenir dans 30 ans.
En tout cas, l'interview nous aura appris beaucoup de choses intéressantes.
Nous remercions encore Jean-Baptiste pour nous avoir permis de l'interviewer.
Classe 7-8H, on est les meilleurs.
Hey Pierre, hey Lola.
Coucou Amélie.
Il paraît que c'est bientôt la fin de l'émission.
Ah bon? Je croyais que c'était le début.
Mais non!
C'est la fin, voyons.
Alors au revoir tout le monde, un grand merci pour votre écoute, c'était la classe 7-8H de Julien.
Au revoir.